Déjà depuis quelques semaines, nous sommes dans le livre de Josué. On arrive au chapitre 22, donc ça veut dire que on commence à cheminer vers la fin de ce livre. Le parcourir avec vous a été un vrai plaisir pour moi dans la préparation. J'ai redécouvert plein de choses auxquelles je n'avais pas fait attention, et c'est vraiment un livre plein d'enseignements et d'actualité. Donc, dimanche dernier, on était dans ces passages passionnants de la répartition des territoires des différentes tribus, hein, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21. Enfin, ce que Dieu avait promis depuis des dizaines, centaines d'années, enfin ça se réalise, et ils peuvent rentrer dans les possessions. Donc, il y a cette répartition qui est faite. C'est un moment un peu solennel aussi. Je pense qu'il devait y avoir une certaine excitation aussi de savoir quelle part je vais avoir, hein. Et on avait pu voir la carte avec toutes ces répartitions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a le Jourdain et puis il y avait deux tribus et demie qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Elles avaient depuis longtemps eu leur possession du temps de Moïse. Elles avaient participé à la conquête. C'était en fait un contrat qui avait été passé avec les autres tribus aussi. Elles avaient participé à la conquête. Et on arrive au chapitre 22 où elles vont rentrer, elles aussi, dans leur possession après cette phase de la conquête. Donc au chapitre 22, c'est la page 167 des Bibles qui sont sur les chaises. Je vous propose de faire la lecture parce que comme on est dans des textes narratifs, ben c'est bien de suivre le fil de la narration. Puis je m'arrêterai de temps en temps pour pouvoir relever l'une ou l'autre idée qui sont très très intéressantes. Donc chapitre 22, verset 1. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: Vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce, sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Donc, la tribu de Ruben, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, donc ces deux tribus qui étaient de l'autre et demi qui étaient de l'autre côté du Jourdain, elles s'étaient engagées à combattre, même si elles avaient eu leur possession, elles s'étaient engagées à combattre à côté des 9 autres tribus ennemies pour que toute la partie de Canaan puisse être conquise. Et là, ils prennent congé avec le reste des autres tribus. Verset 4. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il leur avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Veillez seulement à respecter et à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Recommandation avant de partir, peut-être les dernières, une synthèse en fait de ce qui est essentiel, et mes recommandations fortes et très très utiles. Quand tout le peuple était ensemble, conduit par Moïse ou conduit par Josué, il y avait ce représentant de l'Éternel qui donnait la température, qui donnait je dirais le tempo d'être attaché à l'Éternel. Et ils ont suivi plus ou moins positivement les recommandations de Moïse et de Josué. Mais qu'en sera-t-il quand les tribus seront seules sans avoir ce conducteur envoyé de l'Éternel pour les guider dans la trajectoire que Dieu voulait pour eux? Que va devenir les différentes tribus et particulièrement celles qui sont de l'autre côté du Jourdain? Le Jourdain faisait comme une frontière naturelle et eux, ils étaient de l'autre côté. Un petit peu comme si les Tessinois retournaient chez eux. Il y a quand même une barrière naturelle qui fait que on est moins en contact, moins facilement que quand ben, on est tous les uns à côté des autres. Et vous connaissez ce dicton, hein, loin des yeux, loin du cœur. C'est pour ça que Josué rappelle ici l'essentiel de ce qui doit faire la vie d'une personne du peuple et la vie d'une tribu. Et en fait, il y a trois types de recommandations qui sont dites ici. Aimer l'Éternel, il me semble que ça rejoint le premier commandement. Vivre selon ses recommandations et le servir. Aimer, vivre selon ses recommandations, c'est-à-dire les lois, les préceptes, etc. Et le servir, c'est-à-dire que vraiment l'adoration puisse être dirigée vers l'Éternel. Et en notant ces trois grands points, aimer, vivre et servir, je me suis dit, tiens, ça fait AVS. Mais c'est un moyen mémotechnique, hein, comme un autre, pour pouvoir s'en souvenir. Aimer, vivre et servir. Excellent résumé, je trouve, parce que pour nous, c'est exactement la même chose. Nous devons aimer l'Éternel, nous devons vivre selon ce qu'il nous dit dans sa parole, et nous devons le servir aussi. Et j'ai pensé que c'était particulièrement intéressant, cette période estivale, de pouvoir se le rappeler. Et je trouve que ça va être vu qu'on a bien retenu ce moyen mémotechnique hautement réfléchi, ça va nous aider peut-être aussi pour notre intercession. J'ai noté qu'il y a 42 séjours d'été qui sont organisés par les différentes associations de l'Action biblique. 42 séjours quand même. Ces séjours sont en général extraordinaires quand on est dans l'ambiance, quand on est conduit, tout est construit, le programme est organisé pour qu'on puisse avoir à la fois de la joie fraternelle et en même temps des moments bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Mais quand sera-t-il pour chacun des participants une fois qu'il sera rentré chez lui? Est-ce qu'il aimera l'Éternel? Est-ce qu'il vivra selon ses préceptes? Est-ce qu'il aura envie de le servir? Et que ça puisse peut-être être, comme les recommandations qu'il y a eu ici de Josué, peut-être un peu notre accent pour la prière cet été par rapport aux différents séjours qui vont se dérouler. Quand on pense particulièrement à un séjour, c'est bien de prier pour que le séjour se passe bien, mais la vie n'est pas faite que de séjours particuliers. La vie, elle est faite surtout de ce qui est après. Que ça puisse peut-être nous aider à prier en ce sens. Je continue la lecture. Verset 6. Puis Josué les bénit et les renvoya chez eux, et ils rentrèrent dans leur tente. Verset 6. Moïse, maintenant au 7, Moïse avait donné un héritage en Basan à une moitié de la tribu de Manassé, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères de ce côté-ci du Jourdain à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit « Vous retournez à vos tentes avec des grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux et une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Donc ce butin avait été gagné dans les différentes conquêtes et dans les différentes villes, sauf celles dont le butin avait été entièrement consacré à l'Éternel. Ce que je trouve intéressant dans ce court passage, le butin n'est pas que uniquement pour ceux qui ont combattu. Partager le butin, hein, il est dit, il me semble que j'ai bien lu, hein, partager avec vos frères le butin de vos ennemis. En fait, le butin, il n'est pas uniquement pour les soldats qui ont combattu. Ils rentrent et ils devront le partager. Je trouve que c'est très très intéressant parce que ce n'est pas forcément ceux qui sont à la guerre qui profitent uniquement du butin. Et on pourrait même dire d'une manière un peu triviale, même ceux qui, entre guillemets, n'ont rien foutu, auront aussi une part du butin. Intéressant, hein ? En fait, ils n'ont pas rien foutu, hein. Ils sont occupés de tout le territoire qui était de l'autre côté, ils sont occupés de toute la possession pendant ce temps-là. Mais je trouve que c'est intéressant par rapport au schéma que nous rendent nos sociétés modernes. On est un petit peu aussi dans le même cas, hein. C'est-à-dire que Dieu nous donne les capacités pour pouvoir travailler, pour avoir un travail, pour avoir un salaire. Parmi nos salaires, une part non négligeable est retenue pour le bien du canton, pour le bien de la Confédération, hein, pour la ville, le canton, la confédération, et ce, pour qu'on ait un système scolaire, par exemple, qu'on ait un système judiciaire, de santé, et plein d'autres choses, qu'on ait des routes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que certains partagent pour le bien commun de tous. Et c'est sûr que quand on lit les lois bibliques, particulièrement dans l'Ancien Testament, des fois, ces lois, elles sont un peu rébarbatives. Je ne sais pas si c'est la première lecture que vous prenez le matin, mais nombre des lois qui sont dans la Bible ont été une source d'inspiration, à la fois pour les droits de l'homme et pour nombre de nos sociétés occidentales. Alors on pourrait prier pour que, avec le temps, nos responsables s'en écartent le moins possible. Le fait qui a été ici, je trouve, nous donne à réfléchir, parce qu'on est souvent sollicité à réfléchir, parce que des lois nous sont soumises, et entre droit, devoir, et on vote par rapport à ces lois qui nous sont soumises. L'exemple qui est donné là, est-ce qu'il est un exemple qui nous inspire ? Est-ce que cette idée du bien commun pour toute une nation, surtout quand il s'agit de répartir des richesses, est-ce que ça nous habite ? En tout cas, c'était le conseil qui avait été donné ici, c'est-à-dire que tout le trésor de guerre devait être partagé avec ceux qui étaient restés de l'autre côté du Jourdain. Et il me semble que nous ici, on est au bénéfice des générations précédentes qui ont eu cet idéal, c'est-à-dire de répartir le bien commun pour l'ensemble de notre société. Si on peut être dans le système dans lequel on est, c'est parce que ceux qui nous ont précédés ont joué le jeu. Ils ont donné pour le bien commun de la nation. Et je pense que c'est important de se dire que ce n'est pas juste une idée qui est un idéal juste politique, mais c'est aussi une manière dont Dieu avait inspiré Josué pour qu'il y ait une forme qui puisse profiter à l'entier de la population. Je trouve que c'est d'autant plus d'actualité parce que nos sociétés occidentales qui ont bénéficié de cette répartition vont de plus en plus vers conserver d'une manière individuelle ce que j'ai gagné. Si vous regardez bien, que ce soit sur le plan européen, de plus en plus, on est incité à plutôt garder plutôt que de répartir. Et ici, on a un bel exemple que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas juste la personne uniquement qui était au cœur des réflexions, mais c'était l'ensemble du peuple. C'est une manière concrète aussi de réfléchir à aimer son prochain. Une action concrète d'aimer son prochain. Penser à la répartition globale. Et j'ai un ami qui m'avait souligné cette remarque, que pour lui, c'était un privilège de payer des impôts. Parce que concrètement, c'est comme ça qu'il exprimait le fait d'aimer son prochain. Alors, je ne sais pas si quand on paye les impôts, on a toujours cette pensée derrière la tête, ça adoucira la facture, mais quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on a le privilège de pouvoir le faire pour le bien commun. Après, ce qu'il en est fait, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de pouvoir partager ce que Dieu nous a permis d'avoir pour le bien commun. Vous voyez comme le livre de Josué peut être d'une actualité étonnante, et de voir que ce peuple si antique, si rétrograde, avait des pensées qui étaient déjà bien plus modernes que l'on ne pense. Alors si rétrograde, c'était, je dirais, de l'humour que j'ai fait, c'est pas ma pensée profonde. Alors, est-ce qu'on reprend la lecture au verset 9, après avoir partagé ce trésor ? Après avoir quitté les Israélites à Silo, c'était un peu le camp de base du peuple d'Israël, dans le pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé repartirent pour aller dans le pays de Galaad. C'était leur propriété et ils s'y étaient installés conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Arrivés dans le district du Jourdain, qui appartient encore au pays de Canaan, donc avant de traverser, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y construirent un autel au bord du Jourdain. C'était un autel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent que l'on disait « Les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont construit un autel qui fait face au pays de Canaan, dans le district du Jourdain, du côté des Israélites. » À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter les attaquer. Les Israélites envoyèrent une délégation aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, dans le pays de Galaad. Il s'agissait de Phiné, le fils du prêtre Éléazar, et de 10 princes qui l'accompagnaient, un par famille, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galaad et s'adressèrent à eux. Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël? Vous vous détournez maintenant de l'Éternel en vous construisant un autel? Vous vous révoltez aujourd'hui contre lui? Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor? Nous n'en avons pas encore purifié malgré le fléau qui a attiré sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui de l'Éternel notre Dieu. Lorsque Achan, fils de Zérakh, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toutes les assemblées d'Israël? Achan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. La situation est sérieuse, hein? Les tribus d'Israël se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce qui est au sujet, au cœur de cette délégation, c'est le problème de la solidarité. Ce que font les deux tribus ennemies va avoir des conséquences sur les 9 autres ennemis. La fidélité et l'infidélité de ces tribus va avoir des conséquences sur les autres tribus. Que ce soit sur le plan spirituel, crainte, ils ont la crainte qu'ils créent un nouveau lieu d'adoration avec une désobéissance qui, au lieu de l'Éternel, serait de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit combien elle a été sévèrement punie par l'Éternel. Et des fois, même l'infidélité d'une personne a des conséquences sur tout le peuple. Et ça, on l'a vu dans le livre de Josué avec Achan. Achan avait pris du trésor de l'Éternel et c'est tout Israël qui a trinqué. Ou bien, il y a ce problème d'ordre spirituel, mais l'autre question qui est aussi au cœur de cette délégation, c'est que finalement, on ne sait pas trop s'ils n'avaient pas derrière la tête que finalement ces deux tribus ennemies se sentaient moins légitimes que les autres dans la répartition et que peut-être ils pourraient faire sécession à un moment ou à un autre. La motivation qui est derrière cette délégation, c'est que l'honneur de l'Éternel soit sauf et que la solidarité du peuple puisse être positive. Et là encore, je trouve que cette interrogation des tribus d'Israël envers ces deux tribus ennemies est intéressante. C'est-à-dire que l'honneur de l'Éternel était au cœur de leurs interrogations. Et je me suis posé la question, est-ce que ce que fait mon prochain, ce que fait mon frère ou ma sœur, m'intéresse par rapport à l'honneur de l'Éternel? Ou est-ce que finalement, je regarde ça d'une manière distante? Est-ce que l'honneur de l'Éternel passe avant mes choix personnels, mes réflexions, mes actions? Et on est beaucoup invité dans tout ce qui nous entoure à faire des choix personnels, à prendre des décisions personnelles, individuelles, et finalement qui se révèlent souvent individualistes. Mais la réalité, c'est que je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux, et je n'ai pas finalement grand soin des conséquences que ça a autour de moi. Et on sait que c'est en fait faux, parce qu'au niveau sociétal, on voit que les choix individuels ont forcément des conséquences positives ou négatives dans la société. Cette notion, là encore, de solidarité du peuple habite cette délégation. Hein. Et il y a une interdépendance entre les tribus qui sont restées d'un côté du Jourdain par rapport aux autres tribus. Et est-ce que nous aussi, on a cette conscience que dans le peuple de Dieu, ce que je fais, ce que je vis, eh ben, a des conséquences aussi au regard de mes frères et sœurs, de ceux qui m'entourent. Cette notion de solidarité. Alors qu'on est habité, voire même contaminé par cette pensée individualiste. Je fais mes choix, peu importe ce qui arrive autour. Et finalement, cette idée, je fais mes choix, fait que bien souvent, l'Église de Christ est une Église qui est cloisonnée d'individus ou d'individualistes. Mais la notion de solidarité, de ce que je fais a forcément des conséquences, nous habite beaucoup moins. Dans d'autres cultures, cette notion de solidarité est très forte. Mais en Occident, c'est un peu notre point faible. On est beaucoup habitué à ce que je fais, ben, ça me concerne moi-même. Alors on est responsable de nos vies, mais ce que je fais a forcément des conséquences de l'autre côté. Dit d'une autre manière, Jésus en a parlé. En Matthieu chapitre 18, verset 15, c'est un petit peu la même idée ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé de chercher, c'est juste un verset, je vais vous le lire. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est beau, hein? C'est exactement la même chose qui se passe ici. Ils avaient crainte qu'ils pèchent contre l'Éternel. Ils sont allés les voir. Ils en parlent en tête à tête. Bon, c'est un gros tête à tête, hein, vu qu'ils sont une délégation. Mais c'est exactement la même idée. Parce que le bien commun, l'honneur de l'Éternel, le bien du peuple de Dieu passe avant les choix individuels. Même plus que l'amour, souvent on met en avant l'amour de mon prochain, c'est parce que j'aime mon frère ou ma sœur que j'y vais. Mais ici, c'est plutôt l'honneur de l'Éternel et l'idée du peuple, solidarité du peuple qui est mis en premier, et bien sûr, l'amour pour le prochain. Alors, on pourrait se poser la question dans ce texte, mais y a-t-il vraiment péché? Hein? Et bien ça, on va le voir ensemble au verset 21. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel. Oui, c'est le Dieu des dieux. L'Éternel qui le sait et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne viens pas à notre aide aujourd'hui. Si nous nous sommes construits un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour aux nôtres, qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, construisons-nous donc un autel, non pour y offrir des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin. Il témoignera entre nous et vous, entre vos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant lui par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et de communion. Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour aux nôtres, vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. Nous nous sommes dit, si dans l'avenir ils tiennent ce langage, à nous et à nos descendants, nous répondrons, voyez la réplique de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos ancêtres. non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Nous ne voulons certes pas nous révolter contre l'Éternel et nous détourner aujourd'hui de lui en construisant un autel destiné à des holocaustes, des offrandes et des sacrifices, en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le prêtre Finet et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui l'accompagnaient, eurent entendu les paroles prononcées par les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils furent satisfaits. Finet, fils du prêtre Éléazar, leur dit alors : Nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque nous n'avons pas commis cet acte d'infidélité contre lui. Vous avez ainsi délivré les Israélites d'une intervention de l'Éternel. Finet, fils du prêtre Éléazar, et les princes quittèrent les Rubénites et les Gadites. Ils revinrent au pays de Galaad, dans le pays de Canaan, vers les Israélites et leur firent un rapport. Les Israélites furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter les attaquer et de dévaster la région qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si je vous parle de Claude Lanzmann, ça vous dit quelque chose ? Oui, un petit peu, hein, il est décédé il y a quelques jours. C'est le réalisateur du film documentaire, qui ne dure pas très longtemps, 9 heures, Shoah. Pourquoi cet homme a fait ce documentaire ? Pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas. Et pourtant, ça va vite. Il me semble que depuis les horreurs qui se sont déroulées dans ce cadre-là, il y a des pensées, on dit, négationnistes. Ça n'a jamais existé. Quelques dizaines d'années, pas plus. En peu de temps, on oublie très vite ou on modifie très vite les faits. Et là, ici, il y a le souci par ces deux tribus et demie qui sont de l'autre côté du Jourdain, qu'à la fois ils ne soient pas exclus d'Israël à l'avenir par les 9 autres, ou qu'à l'inverse, ces deux tribus ennemies ne fassent sécession par rapport aux 9 autres. Ils font partie d'un même peuple, et ce peuple n'a d'existence pas par les conquêtes, pas par la sortie d'Égypte, mais ce peuple n'a d'existence que par l'Éternel. Et c'est ça qu'ils veulent laisser comme témoignage avant cette séparation géographique. Et je trouve que c'est très très intéressant ici le souci de transmission à la génération et aux générations d'après. Et là encore, je me pose toujours des questions qui je ne devrais peut-être pas me les poser, hein, mais là encore je me suis posé la question. Et nous, quel témoignage on laisse aux générations qui arrivent? Quel témoignage de l'Éternel nous laissons aux générations qui arrivent? Et je pense que si les générations qui arrivent ont le témoignage de ce qui s'est passé dans le passé de personnes attachées à l'Éternel et que ce témoignage a vraiment un impact dans les vies, nos vies auront eu du sens, mais surtout on rendra l'honneur à l'Éternel et on laissera cette marque pour les générations futures. Je connais bien l'histoire de l'Action biblique et je suis émerveillé de certaines des choses qui ont été vécues par l'une ou l'autre personne ou par l'autre groupe de personnes, comme dans d'autres familles d'Église. Mais je connais particulièrement celle-là. Et il y a des choses qui sont marquantes et qui marquent ma vie. Il y a des personnes aussi qui ont marqué ma vie parce que ils ont laissé un témoignage qui est un témoignage hors du commun. On voit même que cette idée, elle traverse d'ailleurs beaucoup l'Ancien Testament. Le souci de transmettre à la génération qui va venir est présent dans toutes les lois, dans toute la manière de fonctionner du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on a aussi cette idée. Dimanche passé, quand on a pris la scène, ben, c'est comme un monument, alors ce n'est pas un monument en pierre, un arc de triomphe, je sais pas, mais c'est un monument pour qu'on puisse se souvenir de la mort de Christ. Pourquoi ? Parce qu'on est oublieux, et parce qu'on oublie vite, on s'habitue, et puis après on transforme. puis après, ben, Jésus, ben, c'est quelqu'un de sympathique. Puis on oublie un petit peu sa mort, on oublie l'essentiel. On retrouve dans la parole de Dieu cette idée de transmission avec des gestes qui étaient des gestes forts. Hein, il y avait beaucoup de fêtes d'ailleurs en Israël qui étaient des moments commémoratifs pour qu'on n'oublie pas. Et pour nos vies, quel témoignage de vie attaché à Christ sera lisible après notre parcours ici-bas? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est une bonne question de se dire finalement quel témoignage sera lisible au travers de nos vies. Et c'est même ici, même un petit peu plus fort, parce qu'il s'agit même du peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, quel témoignage on va laisser aux générations qui arrivent de l'attachement à Christ? Alors que ça puisse être dans nos méditations, dans nos réflexions, il ne faut pas surjouer non plus, mais c'est important de se dire que, et là encore, je pense que notre individualisme, des fois, nous fait pas trop poser ces questions-là, mais qu'est-ce que nous laissons aux générations qui arrivent de notre passage ici-bas, de notre attachement à Christ particulièrement. Voilà pour ce chapitre 22 de Josué. On arrive bientôt à la fin du livre. On continuera certainement courant août. Mais voyez comme ce livre est intéressant et stimulant pour notre foi, notre vie avec Christ, de réfléchir au regard de ce que s'est passé précédemment pour que nous aussi, à l'écho de ce que nous a donné la parole de Dieu, on puisse aussi avoir des sources de référence et de réflexion pour la suite.